Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 129 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Gérald Faure. Il accompagne les entrepreneurs aujourd'hui à développer leur entreprise. Soit ils partent de zéro grâce à un incubateur où il les aide en 90 jours à avoir un plan d'action pour développer leur business. Ou alors, il a également un mastermind où il les aide à développer leur croissance et à accélérer leur développement. Dans ce podcast, on a retracé son parcours, comme à mon habitude dans les interviews, mais on n'a pas parlé que de ça. D'ailleurs, au tout début du podcast, nous avons parlé de ce qui lui est arrivé ces derniers temps. Il vient de perdre son compte Instagram. On a parlé de comment faire quand on a bâti toute une communauté et qu'on a mis des efforts sur une plateforme. Comment faire pour vivre bien la chose finalement? Comment faire pour tout reconstruire si c'est le cas? Tant qu'il n'a pas retrouvé son compte Instagram. Comment faire pour continuer à développer son entreprise, tout en se passant de ce réseau social pour le moment? On a aussi parlé des douleurs et des croyances récurrentes qui peuvent survenir chez ses clients. Et on a vu finalement comment les débloquer. Quelle est la stratégie de Gérald pour aider ses clients à passer d'un point A à un point B, à développer leur entreprise et à accélérer leur croissance? Il nous a partagé vraiment toutes ses pépites. Il nous a dit que la recette secrète se trouvait dans un certain playbook. Je vous laisserai écouter le podcast pour découvrir ce qui se cache derrière ce mot. En tout cas, c'était très intéressant parce que moi, je ne connaissais pas le terme. Peut-être certains d'entre vous, vous l'utilisez déjà. Moi, j'utilise peut-être d'autres termes, mais en tout cas, pas ce Lucie. Et il nous a vraiment donné toute la structure complète pour pouvoir avoir un business qui accélère et qui se développe avec de belles performances. Vous n'hésitez pas à nous faire un retour sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Et comme d'habitude, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous en serai vraiment reconnaissante. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny Lesprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Gérald.
Hello, hello, comment tu vas?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. Ça fait drôle d'être de l'autre côté, de pas être l'intervieweur pour une fois, d'être de l'autre
Oui,
côté.
pour une fois. Tu nous parleras de ton podcast aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Ça a été hyper fluide, la rencontre et le fait de l'organiser. Ça a été plus compliqué de le produire parce qu'on a essayé deux fois. On a eu des bugs techniques, des bugs d'agenda et tout. Là, c'est bon, on y est bien parti.
On y est. Pour ceux qui ne voient pas Gérald, il est un peu cabossé aujourd'hui, il sort de l'entraînement, mais vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne, pour aller voir un petit peu l'envers du décor. Mais sinon, vous pouvez aussi écouter le podcast en format audio. Vous êtes très bien avec nous ici. Première question, est-ce que tu peux te pitcher? Et je demande l'exercice en 30 secondes. Wow. Qui es-tu et que fais-tu, Gérald?
Alors déjà, c'est le truc que je déteste le plus faire, évidemment, comme beaucoup de personnes. Je savais que tu allais me poser la question. Moi, je m'appelle Gérald, j'ai 34 ans, je suis papa de deux enfants et je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Entreprendre.me et qui a deux produits. Un produit d'aide à la création d'entreprise. On organise des bootcamps pour aider des futurs entrepreneurs à structurer leur projet. Et ensuite, j'ai un mastermind où on accompagne des entrepreneurs plus avancés à tout simplement aller plus loin, structurer leur croissance.
Bon, ça va, c'est parfait ton pitch.
Je sais pas. C'est toi la pro, donc je sais pas.
Quel est le problème avec le fait de savoir, de devoir te pitcher?
C'est qu'on veut trop en dire, on veut trop en dire, on sait pas. Là, du coup, il y a pas de. là, je le fais comme si je te, voilà, je le fais parce que c'est toi, et du coup, je le fais comme si je m'adressais à toi, mais je sais pas qui écoute, donc forcément, j'adapte pas le truc, et puis t'as peur d'en oublier, et puis t'as peur d'être chiant, et puis voilà. Donc en fait, c'est un petit peu ça, mais je me suis un peu soigné quand même. Avant, je détestais me présenter. J'aurais préféré que tu me dises cours tout nu dans la rue, ça aurait me posé beaucoup moins de problèmes que juste explique ce que tu fais dans la vie, tu vois. Donc voilà, non, mais je me soigne, ça va.
Waouh, ok, grosse progression. Mais écoute, moi, je trouve très bien ton pitch, très pertinent. Tu vas nous en dire un peu plus sur tes programmes aussi également. J'ai une autre question pour apprendre à te connaître un peu plus. Écoute, si je te donne 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais avec ?
Pas grand-chose, je pense. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Moi, je suis adepte d'une philosophie qui est la philosophie FIRE. Et donc, en fait, je base un peu tout ce que je fais au quotidien par rapport à un objectif. Et donc en fait, je budgète un peu tout dans ma vie. Donc, je sais pas ce que je ferai de plus. Peut-être que j'irai plus loin dans la vision et que je développerai un fonds d'investissement pour aider. Les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui par mon temps, les accompagner peut-être plus par de l'argent. Voilà, parce que mon temps aujourd'hui, il est limité. Et si j'ai un capital de plusieurs millions disponible, éventuellement, je ferai ça. Et donc voilà. Et le FIRE, c'est un truc qui est très présent dans ma vie. Donc, là, j'ai acheté ma maison en mode FIRE, c'est-à-dire j'ai préféré attendre qu'avoir un crédit. J'ai fait tout ça. Donc, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas de besoin spécifique. Je me paye la même chose depuis 5 ans, alors que la boîte, la croissance de la boîte a été importante. Donc voilà, j'essaie de pas avoir de fuite en avant avec l'argent. Donc, ça serait pour développer un autre projet, je pense, si j'avais cette somme-là, et donc plutôt un fonds. Voilà.
Ah, ok, très intéressant tout ça. Donc, ça veut dire que là, ta maison, t'as pas voulu faire de crédit, t'as préféré la payer cash.
Exactement. Ce qui a pas trop de sens économiquement, parce qu'en fait, la dette, c'est quand même un gros levier pour s'enrichir. Alors, j'ai de la dette sur des immeubles, etc. J'ai des immeubles avec de la location, mais sur ma résidence principale, j'ai pas voulu le faire. Et j'ai préféré attendre plus longtemps. Donc, j'ai attendu 5 ans de plus entre le projet, entre l'envie d'avoir la maison et le fait de pouvoir capitaliser assez dans l'entreprise pour pouvoir l'acheter.
Ok. Et ça t'a fait quoi, en fait, d'acheter quelque chose comme ça, on va dire cash? Est-ce que ça t'a changé les choses, ta perception par rapport justement à t'as d'autres crédits à côté? Tu te dis waouh, ça m'appartient, c'est à moi et en plus j'ai pas de crédit dessus. Enfin, est-ce que ça t'a changé quelque chose? C'est comme un accomplissement?
Ouais, c'est un accomplissement. Je suis très fier de ça. En fait, si je l'ai fait, c'est parce que j'avais une énorme peur du manque. C'est le fameux truc. Et si tout s'arrête, machin. Enfin, on est beaucoup à se poser ces questions-là, ce qui est complètement irrationnel parce que au final, j'ai fait une bonne école, il suffirait que je reprenne un job. Enfin voilà, je pourrais trouver, je m'inquiète pas. Et je me suis dit, peut-être que cette peur du manque, si j'ai un setup financier qui est bien, peut-être que j'aurai moins la peur. Alors, breaking news, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai essayé de rationaliser une peur. Alors, il fallait le résoudre autrement. Donc non, ça n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, je suis très content de l'avoir fait. Et en effet, ça crée une tranquillité d'esprit. Donc voilà, et si demain tout s'arrête, même si c'est absolument impossible que tout s'arrête, parce que j'aurai forcément d'autres choses à faire, en fait, j'aurai toujours un toit sur la tête. Mes enfants n'auront pas de dégradation de leur niveau de vie, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ça l'accomplissement derrière ça.
Trop bien ce partage. Si tu me permets, je veux bien rebondir sur ce que tu m'as dit en off du coup, parce que là, tu es en train de dire si tout s'arrête. Tu m'as partagé en off que tu viens de perdre ton compte Instagram il y a quelques jours ou quelques heures de ça. Et du coup, qu'est-ce que ça te provoque? Et justement, par rapport à ce manque, en effet, tu as quand même bâti une certaine communauté depuis tes débuts. Et ça te fait quoi là, émotionnellement ou dans les faits?
Alors, factuellement, je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Et donc ça, c'est un peu le cadeau. Mais non, alors en fait j'ai encore espoir de le retrouver. C'est un ban, on pense que c'est juste parce qu'on se connecte à trop, on est 4-5 personnes à se connecter sur ce compte Instagram de l'équipe, donc on pense que ça vient de là. Dans tous les cas, on n'a pas eu d'attitude frauduleuse ou de contenu trop border. C'est déjà arrivé qu'il y en ait, mais là sur cette période là il n'y a pas eu de problème. Et donc là pour l'instant c'est sûr que c'est un actif hyper important parce que moi, je suis adepte du building public, donc je documente beaucoup la façon dont je développe mes boîtes. Et il y a mon podcast qui est diffusé, dont la promotion est faite sur Instagram. Et surtout, je publie tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, de la preuve sociale avec les bootcamps qu'on organise, soit le mastermind, soit l'incubateur. Donc, on voit nos clients, nos clients sont contents d'être, ils repartagent, etc. Et donc, on fait pas de publicité. On fait pas de publicité pour nos propres programmes. C'est vraiment toujours des relais, des gens qui repartagent. Et c'est comme ça qu'on a un pipe de clients. Et après, ça permet aussi, j'ai envie d'avoir le profil rassurant. Donc moi, je conseille des gens à monter des business et tu as un peu deux types d'acteurs. Tu as ceux qui vont être à Dubaï avec un style de vie qui leur appartient. Et puis, tu as des gens qui ne se reconnaissent pas, en fait, qui se reconnaissent pas dans ces profils-là et qui veulent être accompagnés un peu plus par le bon père de famille, comme on dit. Voilà. Et donc, moi, c'est un peu la casquette que je prends. Tu vois, je montre mes entraînements de sport, je montre la vie de mes gosses, je montre ma maison, je vis à la campagne, je montre quand je vais à l'église, enfin tu vois, des trucs comme ça, ce qui est factuellement ma vie, mais dans mon branding, ça fait partie, c'est une partie importante. Et donc ça, Instagram, bah, en fait, c'est vachement bien parce qu'en fait, ça permet de faire ça. Et donc voilà, donc je le fais pas par exhibitionnisme, mais en fait, je joue la casquette du mec rassurant et Instagram, c'est la meilleure chose pour ça.
Ouais.
Donc okay. Voilà, en tout transport, la stratégie Instagram, c'est ça pour moi, dans mon cas.
Et est-ce que tu trouves que bah, justement le fait de perdre ton compte, est-ce qu'on est dépendant vraiment de ce réseau social ou en tout cas des résultats qu'il apporte, ou est-ce que tu penses que ton business se porterait vraiment aussi bien sans ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui?
Le mastermind, j'aurais pas pu le lancer sans Instagram, ça c'est sûr. L'incubateur aujourd'hui, oui, parce que moi je l'ai distribué avec des partenaires, donc l'incubateur, avant d'arriver dans l'incubateur, les gens qui l'achètent savent même pas qui je suis. Ils le découvrent après dans la pédagogie. Et donc voilà, donc une partie du business, ça aurait été possible, une autre partie moins. Et en fait, tu vois, très souvent en podcast, en interview, etc., on me dit où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te suivre, est-ce qu'il y a un lien, etc. Alors moi, j'envoie pas vers mon site, je dis, bah, tu sais quoi, voilà, ça fait une heure que je discute là, venez juste m'envoyer un message sur Instagram pour me dire bonjour, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à avoir de bonnes relations avec les gens qui écoutent et ça amène forcément du business, des questions, du recrutement, enfin ça amène plein de choses, ce côté relationnel dans Insta. Donc ouais, je pense que j'aurais fait moins de choses si j'avais pas eu Instagram.
Bon, on espère que quand l'épisode sortira, tu auras retrouvé ton compte pour qu'on t'envoie un DM.
Voilà.
Sinon, on aura d'autres solutions à proposer à la fin de l'épisode pour te retrouver. Ok, merci pour ça. Est-ce que tu peux me retracer rapidement dans les grandes lignes ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur maintenant et ce depuis plusieurs années? Qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a drivé? Quel a été ton why et ton pourquoi?
Alors au départ, le why et le pourquoi, c'était un vrai sujet. Moi, je suis parti à 15 ans de chez mes parents pour jouer au rugby. Donc, je suis parti dans un centre de formation à Bègles, à côté de Bordeaux. Et donc, ça s'est plutôt bien passé côté rugby. Voilà, parcours assez classique à un niveau correct. J'ai fait une école d'ingé. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir jouer 2 ans dans un club de Pro D2 en tant qu'espoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber l'école. Et j'ai monté ma boîte, donc école d'ingé, moi je faisais de la programmation, et donc j'ai monté une boîte pour faire des sites web, donc vraiment le truc classique, des sites web et des applis. J'ai droppé l'école, j'ai fait ça en parallèle du rugby. J'ai eu mon fils très tôt, je l'ai eu à 24 ans, donc à ce moment-là, ben, j'ai arrêté le rugby, donc je suis passé dans la vie adulte, et donc voilà, j'ai découvert les muses, donc les business en ligne, donc je développais des services, par exemple, enfin, tout un tas de services en ligne qu'on peut consommer, où on va dépenser quelques euros pour aller plus vite. Et donc voilà, moi je développais ce genre de truc-là. J'avais trouvé des asymétries de marché sur Google. Je disais, OK, il y a tant de personnes qui tapent ce mot-clé-là, il y a personne qui achète ce mot-clé, donc il y a un marché. Et donc du coup, je développais des trucs. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du e-commerce sur ces mêmes stratégies de business. Je montais des sites web. Sur Google Shopping, voilà, la promotion se faisait par Google Shopping, avec toujours cette démarche où l'internaute cherche quelque chose et je vais lui proposer. Et en fait, vu que la data elle est ouverte, on a accès à tout, ben, c'est comme ça que je le fais. Et j'ai commencé à documenter, et notamment par Insta. Et donc, j'ai documenté tout ce parcours-là, en sachant que les gens sont fascinés par le e-commerce, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dès que tu parles de e-commerce, les gens sont comme des oufs. Et donc, j'ai documenté ça. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de faire du e-commerce, le challenge, il n'était plus trop là. Je dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, on m'a proposé de donner des cours dans une école, puis on m'a proposé aussi de donner de faire des consultations, de faire du consulting. J'ai commencé à faire ça, et ensuite, après, ça a déroulé vers voilà, le consulting, c'est pas trop scalable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée une formation, on crée l'incubateur. Puis une fois que l'incubateur a été mis en place, ben, j'ai créé le mastermind pour aller au step d'après. Et donc voilà. Donc au final, j'ai lancé mes petits business histoire de pouvoir un peu dropper tout ce qu'on m'avait gentiment. Mes parents voulaient le mieux pour moi, mais voilà, mon père voulait que je fasse du rugby à haut niveau, ma mère voulait que je fasse une école d'ingé. Au bout d'un moment, bon, moi je suis le dernier de 5 enfants. Au bout d'un moment, j'ai un peu marre, voilà. Et du coup, j'ai dit bon, mais j'en ai marre, je vais essayer de prendre ma vie en main. J'ai dit premier truc, c'est qu'il faut que je gagne ma vie. Je lance des petits business et puis je documente tout ça. Et puis, maintenant, ça ressemble un peu à une belle histoire après coup. Mais au moment où je faisais ça, je savais absolument pas ce que je faisais, pourquoi et tout. Je cherchais juste à me rebeller un petit peu, quoi.
Donc, voilà. Ouais, ok. Ok, ça c'est. Et donc, du coup, tu as bifurqué il y a 5 ans de ça?
À peu près, ouais. L'incubateur aujourd'hui, dans sa forme actuelle, il y a 2 ans et demi. Et du coup, avant, j'ai fait du consulting en one-one, donc ça doit faire à peu près ça, entre 4 et 5.
Donc, quand tu dis consulting one-one, c'est quoi? C'est coach, tu disais aussi école de commerce, tu donnais des cours et tout ça, c'est ça, ouais. Un peu au début? Alors,
c'était école d'ingé, c'était pas école de commerce, mais ouais, en fait, c'était ça. J'avais des cours, je donnais des cours de lean, donc le lean, c'est une façon de gérer des projets, de lancer des projets, donc c'était un truc que moi, je mettais en place, donc voilà, j'ai été. L'école que j'avais abandonnée m'a récupéré en tant qu'intervenant, donc ça c'était cool.
Ouais.
Et donc voilà, et après, ouais, les consulting one-one, c'était j'allais donner mon avis sur le business des gens. Donc j'ai bossé avec des grands groupes comme Allianz par exemple, le mastodonte financier, une des plus belles boîtes européennes sur le plan de la finance. Et donc j'ai bossé avec eux et en fait, je les accompagnais sur des projets d'intra-entreprise. C'est des gros groupes comme ça, ils développent plein de... Enfin, leur pôle innovation lance des projets, ils lancent des boîtes à l'intérieur avec un CEO, etc., etc. Et donc, moi, j'y allais pour... j'étais un peu la caution. Ces boîtes-là, elles prennent toujours un consultant. Elles ne prennent jamais de décision. Okay. Voilà, ouais. Et donc voilà, on était plein de consultants et moi, je faisais partie de ces gens-là. Et puis, voilà, et puis après, j'ai découvert des gens qui vendaient des formations, des gens qui avaient des agences, etc. Vu que c'est des business que je connaissais un petit peu, ça a bifurqué, voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur le business en ligne, en fait.
Ok, trop bien. Ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis à un moment donné, comment on bifurque dans sa tête quand on a une espèce d'installation comme ça aussi en présentiel où du coup, tu étais consultant dans des grosses boîtes, tu vas dans les écoles, tu donnes des cours. Qu'est-ce qui a fait le switch de, en fait, tout ça, je vais l'arrêter pour lancer un incubateur sur du business en ligne et je ne saurais pas forcément de quoi demain sera fait sur ce nouveau truc. Est-ce que ça a été une décision assez radicale? Comment tu as pris ce chemin-là et comment surtout tu as décidé d'arrêter les choses que tu faisais avant? Parce que je pense que pas mal de nos auditeurs peuvent être dans un circuit un peu comme ça, aussi fermé, tu sais, à donner des cours, à donner des coachings one-one et ne pas se sortir de cette situation et vouloir bifurquer sur un autre modèle.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, je savais que j'étais pas pleinement épanoui en faisant mes business de... En fait, la technicité du truc me plaisait. J'ai structuré l'équipe qui me permettait de le faire tourner. Mais en gros, faire du e-commerce, souvent, j'en parle pas mal, mais on avait trouvé une niche, on vendait des gamelles pour chats. Ça me passionne pas, j'ai même pas de chat à l'époque. Mais par contre, on gagnait 750, enfin, on avait fait la première année 750 000 euros de chiffre d'affaires en vendant des gamelles pour chat. Alors voilà, ça c'est cool, machin, mais le challenge intellectuel, il était pas là. L'équipe était hyper bien structurée. Baptiste, mon associé de l'époque sur ce business-là, qui aujourd'hui on collabore toujours ensemble, il tenait la baraque. De toute façon, c'était un process. On lançait 2500 produits par an. Enfin, c'était n'importe quoi. On scrapait des produits, on les lançait. Donc, C'était un truc de dev. Une fois que tu as développé le truc, tu n'as plus l'excitation. Moi, j'aime bien j'ai besoin d'être stimulé. Il y a un truc derrière ça. Et donc, je me suis dit, je vais temporairement aller donner un coup de main à des boîtes qui en ont besoin. Et ça s'est fait comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, j'aime bien le faire. Mais en fait, je n'ai pas lâché le truc. Tu vois. Enfin, en mode, l'équipe, elle était structurée, ça bossait. J'ai dit juste, moi, je ne sers plus trop à grand-chose dans cette boîte. Et donc, du coup, je vais le faire. Mais complètement... En mode, je me dis, il n'y a pas d'enjeu, je vais juste aller à Paris 2 fois par semaine et je vais proposer des Zooms. Ça me coûte des billets de train et un abonnement sur Zoom. C'est rien. Et puis j'avais des demandes. Donc, je l'ai fait comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, OK, j'adore autant bosser dans le business des autres que dans le mien. Parce que ce qui est bien dans le business des autres, c'est quand tu es consultant, tu n'as pas les galères qu'il y a à côté. Parce que le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, Moi, je vends du conseil pour monter des boîtes. Donc, je ne vais pas dire ne devenez pas entrepreneur. C'est juste génial. Mais juste, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit de devenir entrepreneur. À ce moment-là, moi, ça m'allait très bien de donner juste du conseil dans des boîtes. Et donc voilà, et je me suis dit, bon, mais ça, c'est trop bien. Je veux continuer à le faire. C'est bon, ça, c'est validé. Par contre, il faut un truc un peu plus écologique pour moi parce que je vais péter un plomb au bout d'un moment. Je veux avoir ma vie de famille, aller à Paris tous les 4 matins, ça va me gonfler. Être sur Zoom, ça me bouffe une énergie de dingue. Et bah, ok, bah, comment on va pouvoir trouver un truc agréable à faire, écologique en fait, pour moi. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé l'incubateur.
Ok, trop cool. Ouais, donc finalement, tu t'es posé les bonnes questions et tu t'es dit à un moment donné, je vais faire ce que moi aussi j'ai envie. Enfin, tu t'es aussi écouté. Je pense que c'est important quand on est entrepreneur de s'écouter. Dis-moi, j'ai une question parce que j'ai l'impression que tu as quand même des grosses forces, on va dire, commerciales et créer des partenariats, aller rencontrer les gens. J'ai l'impression que tu fais assez ça naturellement. J'aimerais te poser une question. C'est peut-être une question un peu large, un peu vaste, mais tu peux y répondre comme tu souhaites. C'est comment tu as fait surtout au début? Alors peut-être on va parler de l'infoprenariat et on va parler du business en ligne, mais pour créer des partenariats solides, t'associer à des gens qui ont déjà une certaine autorité, comment tu as fait pour faire ça à tes débuts? Est-ce que c'est venu tout seul naturellement ou est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu as eu des noms aussi, des échecs?
Je me suis rendu compte récemment que genre, je dois discuter avec une max entre 150, enfin mon carnet d'adresse va être 150-200 contacts max. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est Romain Collignon qui m'a dit ça, qu'en fait il y a un livre sur les 150 contacts. Et donc moi, ce que j'appelle les business WhatsApp. Donc en fait, je me rends compte que là aujourd'hui, je collabore entre mes affiliés sur l'incubateur et mes clients. Je dois avoir une cinquantaine de personnes et ça évolue dans ce pipe de 200 personnes, de 200 contacts au fur et à mesure, de 200 contacts au global, pardon, excuse-moi. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que ces contacts-là, ces 200 contacts, en fait, ils m'ont été apportés. J'ai eu des accélérateurs de réseau, notamment Alex Cormon, qui est un copain, Enzo Honoré, ces mecs-là, ils m'ont Romain Collignon, Alec Henry, ces mecs-là m'ont permis de rencontrer beaucoup de monde. Et tu as des gens comme ça, en fait, tu les rencontres, ils vont te mettre en relation avec plein de gens et ça marche hyper bien. C'est vraiment des accélérateurs de réseau. Et donc, je pense que moi, j'ai rencontré Alex Cormon. Alex Cormon, c'est un gros infopreneur. C'est un des papes de l'infoprenariat francophone et il a plus d'un million de followers sur YouTube. Enfin, voilà, c'est un business qui est solide et qui date. Qui a de l'ancienneté plutôt. Et donc, Alex, il m'a présenté énormément de monde. Enzo, pareil, dans le e-commerce, du coup, on se suivait par rapport à nos business e-commerce. Il m'a fait rencontrer plein de monde. Et rien que eux, peut-être qu'ils m'ont fait rencontrer, je sais pas, 40, 50 personnes. Donc, je pense qu'il faut vraiment identifier ces accélérateurs de réseau. Et puis ensuite, entretenir des relations, mais saines et saines, genre. Je démarche pas parce que j'aime pas être démarché. Et en fait, j'entretiens juste des relations. Et d'ailleurs, nous, on s'est rencontrés suite à ton invitation pour le podcast. Je pense que c'est un accélérateur de réseau de ouf. Bah, c'est le podcast. Et donc, moi, je recommande à tout le monde de le faire. Enfin, c'est quasiment impossible de dire viens, on parle de toi pendant une heure. Est-ce que ça t'intéresse? Bah, ouais, enfin, tu vois, tout le monde veut ça. On a tous envie de se montrer. Et du coup, si après, derrière, intelligemment, on entretient la relation. Si tu as besoin de moi, je te donne un coup de main. J'ai un contact pour toi, j'ai machin truc. Sans forcément être dans la transaction, il y a du business qui fait un jour ou l'autre. Je pense que le réseau, c'est vraiment le truc avec le plus gros ROI, mais avec le moins de prédictibilité. Tu as des gens, en fait, tu as un énorme crush pour une personne. Tu dis, ok, c'est trop cool, on va trop faire des trucs ensemble. Il ne se passera jamais rien. Et tu en as d'autres, tu vas lui parler trois fois dans l'année. Et les trois fois, ça va être des trucs qui vont te faire des bons cantiques dans ton business. Enfin, en tout cas, moi, je remarque ça comme ça. Et donc, voilà. Et d'où le mastermind. Moi, je suis cliente de chez Romain. Romain Collignon, qui est un pote, qui est donc du coup, qui me mentore pour mon mastermind également. Romain, il parle beaucoup plus de l'entrepreneur. Moi, je parle beaucoup plus de l'entreprise. Donc, en fait, on ne se marche pas dessus. On est ultra partenaire. Et donc, le mastermind, c'est un super levier pour faire du réseau, quoi. Donc, voilà. Réponse un peu longue, désolé.
Non, bah, c'est parfait. Bah, réponse longue, question hyper vaste, donc forcément ça va avec. Et c'est très très intéressant. Donc en fait, tu es en train de dire qu'avec un carnet d'adresses finalement qui est pas très grand, qui est pas très large, tu as privilégié des relations de qualité, des vraies relations qui t'a permis de développer derrière ton business aussi. Par contre, mis à part ça, tu me parlais d'avoir 41 000 followers sur Instagram. Donc ça, forcément, c'est pas des gens que tu les connais tous, du coup. Comment t'as fait pour développer aussi ta visibilité, ta notoriété? Comment ça se fait que ton compte, il a grossi comme ça? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as des game changers que tu peux nous partager?
Ouais. Alors au départ, le compte, c'était un compte où moi je montrais pas mon visage, c'est un compte de
Ah ouais.
citation. Et petit à petit, donc en fait ça marche de dingue. Ça justement c'est un super accélérateur. C'est un compte de citation et en fait on a petit à petit mis des extraits du podcast en plein milieu. Parce qu'en fait les citations, bon mais t'as 9 chances sur 10 que ça soit un truc qui soit par Churchill ou par Einstein, tu vois, c'est obligatoire, tu vois. Et accessoirement au milieu on mettait des extraits du podcast. Et donc on a fait ça et on a reveal le compte. Ma photo, voir ma tronche en photo de profil d'Insta, ça fait que 3 ans, genre qu'elle y est. Avant, c'était pas ça. Et donc on a fait ça et petit à petit, on a changé le contenu. Donc au départ, on a fait un truc qui plaisait. On savait que ça plaît de dingue. C'était que des trucs sur l'entrepreneuriat, le dev perso, le management, le marketing. Et donc c'était pas. On parlait pas, c'était pas un truc sur les chats ou sur je sais pas quoi. Et donc voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Donc on arrive. Au départ, le hack de croissance, ça a été de donner ce que les gens voulaient pour ensuite tendre vers ce que nous on voulait proposer.
Ok. Et après, t'as fait est-ce que tu penses qu'il y a, avec les vidéos, par exemple, avec les extraits de podcast, c'est ça aussi qui a fait grossir, c'est les reels, c'est tout ça?
Ouais,
Ou est-ce que t'avais cette transition avant?
non, c'est très certainement le podcast, ouais, qui a aidé, parce que le podcast, ça a permis de faire énormément de petites vidéos verticales. Et j'ai eu des invités plutôt prestigieux, donc forcément, ça aussi, ça t'accélère la visibilité. Peut-être qu'à un moment, c'était plus un compte Insta du podcast que réellement mon compte à moi. Et je trouve que ce compte Insta, et à l'époque où il existait, on croisait les doigts pour qu'il revienne, mais le ROI, il a été bien supérieur récemment là, quand j'ai commencé à parler de mes idées, quand j'ai commencé à parler de ma famille, quand moi je
Ouais.
voulais pas montrer mes gamins sur Insta, etc. D'ailleurs, enfin, je le fais très peu. Si je le fais, c'est des stories, mais en gros, tu comprends que c'est des gamins, mais tu les vois pas en gros plan quoi. En tout cas, rien qui pourrait les mettre mal à l'aise plus tard. Donc ça, quand j'ai commencé à vraiment parler de moi, de mes idées, de ce que je voulais, aussi bien des trucs complètement de genre en mode grosse preuve sociale, nos réussites, nos machins, et également de la vulnérabilité pour pas être juste le gros bourrin, le gros bourrin mascu sur Insta. En fait, quand j'ai trouvé ma place là-dedans, en fait, c'est là où il y a eu beaucoup de DM, il y a eu du ROI tout simplement.
Ok, super intéressant. Merci pour ces partages. Quand tu accompagnes comment tu les appelles toi, des coachés, des élèves,
Ouais,
des
mais on les appelle
entrepreneurs?
les membres. Très souvent, on les appelle les membres parce
Ok.
qu'on a vraiment ce côté commun. On met vachement. On coach pas en individuel, on coach que en groupe, quoi. Autant le mastermind que le bootcamp, c'est des programmes de groupe.
Pourquoi on rejoint justement tes programmes de groupe? Quelle est la problématique ou la douleur de base de ton client ou celle qui revient systématiquement ou la croyance ou toi, tu identifies un truc qui est récurrent chez tes membres et comment justement vous les aidez à dépasser cette problématique ou cette douleur?
Ce qu'on entend le plus souvent, c'est je ne sais pas par où prendre le sujet. Je ne sais pas par quoi commencer. Donc en mode, c'est je veux dérouler un playbook, je veux dérouler une procédure pour avancer dans mon projet. Et je vois que là, je suis en train de piétiner, je ne suis pas en mouvement. Et donc en gros, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, j'ai besoin d'une méthode, j'ai besoin d'accompagnement. Et donc ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Nous, après, l'argumentaire pour choisir nos programmes, on dit voilà, il faut que tu travailles sur trois trucs. Il faut que tu travailles sur le fait de vulgariser ce que tu fais. Donc, tu travailles avec des gens qui sont moins avancés. Il faut que tu travailles avec des gens qui sont au même niveau que toi, donc des entrepreneurs, parce qu'en fait, tu vas pouvoir parler à des pairs, et des pairs qui font grossir leur boîte dans le même contexte économique, même contexte voilà, que toi. Et ensuite, il faut que tu travailles avec des gens plus avancés, donc des mentors, des coachs, on les appelle comme on veut, qui, eux, ont déjà fait le chemin et peuvent t'expliquer un peu ce qu'il faut faire, mais surtout t'éviter les pièges, voilà, pour éviter le biais du survivant, etc. Je pense qu'il faut dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, je pense que c'est un petit peu... c'est un petit peu surcoté. Par contre, dire attention, là, il y a 9 chances sur 10 que si tu fais ça, tu te plantes. Moi, je vois plus le truc comme ça. Et donc, moins égale plus, ouais, enfin, voilà, les gens moins avancés, les gens au même niveau, et puis des gens plus avancés. Ça, on le fait aussi bien dans le mastermind que dans le bootcamp, à part que le bootcamp, donc dans l'incubateur, on structure un projet. Donc là, la méthode, elle est beaucoup moins challengeable par les gens, parce que moi je pense que tant qu'on fait pas 10 cas par mois en prestation de service ou en vente de formation, hormis des choses qui touchent aux valeurs, et ça c'est pas négociable, la méthodologie c'est 99 fois sur 100 la même. On déroule un playbook, on va sur le marché le plus vite possible, on capte énormément de signaux et ensuite on est en réaction par rapport aux signaux qu'on a captés. C'est le principe du lean. Moi je crois vraiment à ça. Le mastermind c'est différent, c'est des gens qui ont déjà fait ce pas là qui sont déjà à 25-30 cas par mois de chiffre d'affaires et qui rencontrent après des enjeux de structuration qui vont devoir faire le pas supplémentaire. Et donc là, il va falloir du coup être en réaction à une réalité. Mais moi, je pense que quand on démarre, en fait, il faut dérouler, il faut être véloce, il faut vraiment être guerrier, couteau entre les dents. Et ensuite, après, quand on va plus loin, quand on a dépassé cette barre psychologique des 10 cas par mois, à ce moment-là, on n'est plus guerrier, on est un peu plus soldat. Et puis, on avance plus avec de la méthode et avec une stratégie, qui s'adapte à un contexte. Voilà, voilà en gros les deux différences.
Mmh. Et donc, ok, super intéressant. Tu parles de playbook.
Ouais.
J'ai jamais entendu ce terme. Ah, okay. Pourtant, c'est... Ouais, alors, est-ce que tu veux juste préciser ou m'expliquer? Parce que c'est vrai, j'ai jamais... je sais pas, tu parles de... C'est comme un système
Du coup, le playbook, pour moi, c'est un document unique qui relate... l'histoire de ma boîte et son fonctionnement. Et okay. En gros, ce playbook, il se fait de plein de manières différentes. Hein. Il y en a qui peuvent le faire à travers des looms et des mind maps. Il y en a qui peuvent faire des feuilles sur Notion. Moi, j'utilise plus Notion. Et l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de nébuleux, que notre business soit tangible. Et en fait, quand je pense à mon business, que je suis allongé sur le dos dans mon lit, que je ferme mes yeux, j'ai l'impression que j'en ai un peu dans tous les sens. Si par contre, mon playbook est hyper bien rédigé, mon business, il tient factuellement sur une feuille A4. Ma stratégie de vente, c'est celle-ci. Ma stratégie d'acquisition, c'est celle-ci. Ma stratégie de communication, c'est celle-ci. Et quels sont les KPI, les critères de succès de chacune de ces actions-là? Ça, voilà. Donc, en gros, c'est je fais ça. Voilà les résultats que j'attends de ces différents points. Et si ça ne se passe pas bien, voilà, en gros, les possibilités d'amélioration. En gros, les actions correctives, les actions évolutives. Et donc, c'est ça un playbook. Et donc, on peut appeler ça une procédure, on peut appeler ça un peu comme on veut. Et la façon dont nous, on conseille d'écrire le playbook, c'est au départ, on le fait complètement avec un mindset complètement idéaliste. C'est OK, tu veux monter ta boîte, autorise-toi toutes les excentricités, tu écris tout, lâche ce qui t'inspire. Ensuite, on va le challenger avec des experts qui ne vont pas challenger ce que tu as envie de faire, mais qui vont challenger la façon dont tu imagines le faire. Donc, par exemple, je veux faire des pubs, je veux le faire, ça, je ne suis pas prêt à le faire, j'aimerais raconter ça, j'aimerais faire ceci, machin. En gros, on va voir quelqu'un qui est bon dans le copywriting, qui va être bon dans la publicité et qu'on va lui dire, OK, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Et donc, du coup, il se base sur quelque chose qui est tangible et il travaille sur quelque chose qui ressemble à l'entrepreneur. L'idée, ce n'est pas qu'on ait des business de clones, c'est qu'on ait nos propres business, surtout quand tu vends ton expertise, et en plus de ça, nous, très souvent, il y a du personal branding chez les gens dans les stratégies des gens qu'on accompagne. Tu ne vas pas leur faire n'importe quoi. Ça touche à... Voilà, c'est une réalisation de monter une boîte. Donc, on essaie en fait que ça soit le plus fidèle à leur valeur possible. Et donc, voilà. Donc, on fait ça de manière idéaliste. On challenge ça avec un expert. Un petit peu comme quand tu as un business et que tu dis à ton avocat, OK, comment ce truc-là peut être légal? Ou tu vas voir ton développeur en disant, voilà mon idée, comment on pourrait rendre cette idée de logiciel ou d'application techniquement envisageable? Voilà, donc tu as un point de vue idéaliste, tu challenges avec l'expert, et ensuite après, tu mets à jour ce playbook. Et ce qui est bien, c'est que vu que ça démarre en haut de la page et ça finit en bas de la page, tu n'oublies rien, et tu mets à jour le truc, Et quand tu es, admettons, tu attends dans ta stratégie, je dis un exemple complètement basique, mais je sais pas, tu attends 30% de taux d'ouverture de tes emails, et donc du coup, tu as calculé tout ton modèle économique là-dessus, et tu n'as que 20% de taux d'ouverture. Tu as mis en place toutes les actions qui te semblaient intuitivement bonnes, toutes les optimisations qui te semblaient bonnes à mettre en place. Et quand tu n'as pas la réponse, bah, du coup, tu as une communauté pour justement dire, OK, voilà ce que j'ai mis en place, voilà mon playbook, où est l'angle mort, quoi ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Donc voilà le concept de playbook.
Ah ouais, c'est trop bien, c'est super intéressant, vraiment merci d'avoir précisé. Je reviens sur cette chose dont tu parlais tout à l'heure autour des 10 000 euros, de cette espèce de SaaS où les gens ne l'atteignent pas ou bloquent peut-être à ce niveau. En fait, quelles sont les raisons principales que toi tu as identifiées pour ne pas atteindre ce chiffre-là de façon récurrente par mois dans un business? Quelles sont les problématiques? Qu'est-ce que tu as identifié? Est-ce que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent ou ça dépend un petit peu de chaque entrepreneur? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils n'ont même pas ce playbook mis en place ou il y a d'autres raisons d'après toi?
En fait, le playbook, ça va être le playbook, en effet, ça peut être une c'est très certainement quelque chose qui corrige un défaut qui est de changer trop souvent de stratégie. Alors, d'un côté, je suis pour le lean, donc c'est-à-dire que je suis pour qu'on lance le plus rapidement possible, qu'on teste le plus rapidement possible et qu'on itère. Donc, en gros, il y a une notion de vélocité, mais il y a aussi une notion de résilience. Et très souvent, on oublie le truc, on confond les deux. Donc, la résilience, c'est je vais vraiment pousser mes stratégies au bout, je vais vraiment aller jusqu'au bout du délire, mais je vais challenger ce que j'ai mis de manière véloce. Donc, en fait, il faut lancer vite, mais pas se décourager trop vite. Et je pense que c'est ça. Et en fait, on parle de marketing en ligne, donc très souvent les stratégies, ça va être je fais une VSL, donc je fais une vidéo de vente, ou alors je fais un webinaire de vente, ou alors je fais un funnel de prise de rendez-vous directement, Google Ads, prise de rendez-vous, etc. Et je le teste avec trop peu d'itérations, trop peu de budget et surtout pas assez de patience, quoi. Ben ça, si tu as un playbook, vu que tu l'as écrit de manière idéaliste, ça a été challengé par des experts, tu te tiens à ton protocole de test.
Ouais.
Ce truc, c'est quand c'est nos business, on oublie en fait qu'il y a quand même un peu de rigueur à avoir et protocole de test quand tu travailles dans les sciences, quand tu travailles dans la grande distribution, quand tu travailles dans l'agroalimentaire, le protocole de test il est écrit avant même de lancer le truc. Et ça, c'est des bonnes pratiques. C'est pas juste des trucs chiants que font les gens surdiplômés. C'est juste du bon sens. Il y a des gens qui sont cassés la tête à dire il faut un protocole de test.
Ouais.
En fait, c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà. C'est très souvent on lance trop tard et donc du coup on met de l'affect dans ce que l'on fait et ensuite on n'est pas assez résilient, c'est-à-dire qu'on se décourage trop vite. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. C'est écrit et on se tient au plan. Il y a des moments où on est architecte, c'est au moment où on rédige son playbook. Il y a des moments où on est maçon. On monte le mur et ça, c'est quand on est en train de le dérouler. Et donc voilà.
Ok, super intéressant. Ouais, merci beaucoup. Bah, c'est vrai, souvent, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, mais qui n'ont pas réfléchi aux fondations, on va dire.
Exactement.
Hein, ouais. Les fondations de base du business. Mais voilà. Écoute, on arrive vers la fin tranquillement de ce podcast. C'était vraiment très, très intéressant. Je pense qu'on a eu de belles pépites. Aujourd'hui, toi, comment tu travailles exactement? Parce que tu nous parles des incubateurs et mastermind, mais ça consiste en quoi et comment tu. C'est quoi l'intérieur de tes programmes?
Alors, donc l'incubateur, on distribue des bootcamps, donc c'est-à-dire que toutes les semaines, on a des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont encore très certainement, enfin très souvent dans le salariat ou qui sont en phase de transition, de reconversion, et ils ont une idée, ils ont peut-être une expertise. Et en gros, on va les aider à travers cette journée de bootcamp à déjà structurer l'idée. Essayer de d'estimer un potentiel économique et ensuite de structurer juridiquement la boîte. Donc, on va avoir des sujets comme voilà, quelle est la forme juridique que je dois choisir, etc. etc.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc ça fait partie des questions qu'on a très souvent. Mais on va aussi avoir qu'est-ce qui va faire que mon offre sera irrésistible et comment je vais le pitcher. Et comment je vais communiquer sur mon expertise, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin du bootcamp, on reparte avec une feuille de route sur 90 jours. Donc, la promesse, c'est que tu peux lancer ta boîte en 90 jours. Tu as le playbook. sur 90 jours pour lancer ton projet. Donc voilà, donc on est vraiment sur la structuration de l'idée et validation de l'idée. Les méthodes qu'on utilise dedans, c'est le Lean Startup. Le Lean Startup, il y a Startup dedans, mais ça ne concerne pas que les startups. Hein. C'est un bouquin pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été écrit par Eric Ries, qui explique justement ce process d'itération, de lancement rapide, etc. etc. Au départ, ça vient de Toyota, hein. Ça n'a rien à voir avec Startup. Donc voilà, c'est du Lean Startup sur 90 jours, donc un plan de 90 jours. Et donc voilà, les méthodes, elles sont extrêmement simples, mais juste, on fonctionne sur le playbook, et donc ça veut dire que c'est un peu comme une recette à suivre. C'est vraiment ça le bootcamp.
Ça, ouais.
Et le mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs. Il y a 30 personnes qui sont réunies pour une cohorte de 6 mois. On se rencontre en ligne 2 fois par semaine. On se rencontre physiquement tous les 3 mois. Et donc, l'idée, c'est de faire appel au cerveau collectif, c'est-à-dire c'est beaucoup plus tournant. Les gens viennent avec une problématique, problématique de management, problématique d'association, problématique de mindset, problématique de vente, problématique de marketing, etc. etc.
Ouais.
Et très souvent, le cerveau collectif est juste génial pour ça. C'est le problème que j'ai aujourd'hui, peut-être que toi, Fanny, tu l'as déjà rencontré il y a un an, ou peut-être que ça touche directement ton expertise, ou peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ta cousine qui vit je ne sais pas où, elle est pile poil la bonne personne pour répondre à ça, et donc du coup, tu vas pouvoir mettre en relation avec elle. Et donc, en fait, c'est ça le cerveau collectif. C'est-à-dire, c'est des ateliers de co-développement, dans les corporates, ils appellent ça comme ça. C'est voilà, tu viens avec ton problème et c'est comme ça en fait qu'on structure, qu'on structure le savoir et le partage de valeur. C'est beaucoup moins descendant que l'incubateur, parce que l'incubateur, c'est déroule un playbook. Le mastermind, c'est parler de ces challenges. Et donc voilà.
Yes, ok, trop bien, trop intéressant. Merci d'avoir développé ça. D'ailleurs, j'ai juste une question là. Désolée, j'avais dit on allait terminer, mais là, j'en ai une qui est venue. Comment tu fais face à la concurrence, entre guillemets, dans le sens où on voit de plus en plus de mastermind aussi fleurir, beaucoup plus d'incubateurs fleurir, les immersions avec les mastermind inclus dedans. Est-ce que tu as un rapport quelconque à la concurrence, on va dire, ou est-ce que... toi, tu traces ta route et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Comment tu vois ça ?
Non, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Romain. Romain, c'est mon pote, donc c'est différent. Mais clairement, on s'adresse aux mêmes personnes. Il y a des gens qui étaient chez lui qui sont chez moi et il y a certainement des gens qui sont chez moi qui iront chez lui. Donc, on pourrait voir ça comme une concurrence. Mais en fait, on n'est pas du tout positionné pareil. Donc, le positionnement, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. On ne règle pas les mêmes problèmes. Et en plus de ça, on n'utilise pas les mêmes mécanismes et on a des tonalités complètement différentes. Moi, je suis plus, je peux avoir le côté un peu plus bourru, un peu plus brut de décoffrage. Romain, c'est un vrai coach. Romain, il est très fort dans le questionnement. C'est le meilleur pour ça. Et moi, je suis très certainement bon pour ausculter les business. Mon boulot, moi, c'est d'ausculter des business et de trouver des trucs. Donc moi, je considère. Je sais pas si Romain est d'accord avec ce truc-là, mais Romain s'occupe de l'entrepreneur, moi je m'occupe de l'entreprise. Et d'ailleurs, moi je suis client chez Romain et je vais continuer à être client chez Romain pendant encore très longtemps. Voilà. Donc moi je pense que c'est une histoire de positionnement. Là, ça fait 40 minutes qu'on enregistre. Il y a deux types de personnes, ou trois. Il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui ne peuvent pas me blairer, et il y a ceux qui disent ce mec-là, il n'est pas trop con, peut-être que, en fait, peut-être que ça serait intéressant, je lui pose des questions. Et donc voilà, et je pense qu'on polarise. Donc, du coup, on y va. Et d'ailleurs, je le vois, quand j'ai commencé à polariser sur mon compte Insta, on en parlait tout à l'heure, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du business avec. Donc, je pense que oui, la concurrence, elle est là. Enfin, du coup, l'offre, le marché du mastermind se structure. Après, il y a des gens, t'as envie de bosser avec ou t'as pas envie de bosser avec.
Ouais.
Puis ça marche à un instant T, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est plus tard.
Enfin, ouais.
Moi, je vois pas le. Pour moi, c'est OK.
Oui. Et puis, on est bien loin des Américains, par exemple, qui, eux, sont à des échelles puissance fois 10 millions, où ils sont tous en train de faire la même chose. Et nous, on est encore hyper petits dans notre domaine. Merci beaucoup pour tous ces moments partagés. J'ai une question à te poser qui est, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel, puisque c'est le nom du podcast, où tu en es dans cette révélation ? Est-ce que tu l'as pleinement révélé ? Est-ce que tu es en chemin ?
C'est une excellente question.
Comment tu réponds à cette question ?
Je pense qu'on est en chemin tout le temps. J'imagine un peu le truc utopiste d'avoir Je sais, enfin, vu que le potentiel, alors on va essayer d'avoir une approche mathématique ou scientifique, mais le potentiel, c'est compliqué à définir. C'est compliqué à savoir. C'est compliqué à savoir où ça commence, où ça finit, je pense. Et donc, je pense que c'est toujours une quête. C'est toujours une quête. Et je pense que là, en ce moment, j'ai un regain d'ambition, mais j'avais perdu récemment le feu. Et donc là, tu vois, là, ça revient, mais à un moment, bon, ouais, j'ai envie de faire un peu moins de contenu, lancer un peu moins de business, passer un peu moins de temps avec mes équipes, passer plus de temps tout seul, etc. C'est peut-être aussi une autre forme de potentiel, ouais. Mais d'un point de vue professionnel, en tout cas, puisque on a parlé de ça beaucoup aujourd'hui, c'est toujours en évolution. Je pense que c'est une quête, la recherche de potentiel.
Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu n'as pas retrouvé ton compte Instagram d'ici là? Mais on espère que tu l'as retrouvé au moment où l'épisode sort. Mais si jamais, où est-ce qu'on peut te contacter ou te parler?
Bon, alors, on croise les doigts pour qu'Instagram soit là. Moi, j'aime bien envoyer les gens vers le podcast. Les gens qui écoutent des podcasts, du coup, c'est un format qu'ils aiment bien. Donc ça, voilà. Moi, je peux recommander d'aller sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Le podcast s'appelle Les Gros Mots. En ce moment, je suis un peu moins actif, mais justement, ça fait partie de mon regain. Là, j'en parlais. J'adore faire des podcasts. Et du coup, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse la revanche chez moi, si tu veux bien, Fanny. Je t'invite avec grand, grand plaisir. J'espère qu'on pourra faire ça ensemble. Je pense que le podcast, c'est bien parce qu'on passe un moment à discuter. Ouais. C'est des conversations qui sont plus longues où en fait, on peut traiter les sujets. Donc, moi, je pense que c'est le mieux. Et puis sinon, pour interagir, il y a LinkedIn et Insta. Ce sera avec plaisir. Si les gens ont eu le courage de nous écouter là pendant 44 minutes, un petit message, comme je disais tout à l'heure, ce serait trop cool.
Yes, ok. Allez rejoindre le podcast Les Gros Mots. 44 minutes, j'espère, parce que j'avais encore tellement de questions, mais je me suis retenue. Je me suis dit, bon, on va se calmer. J'ai posé vraiment l'essentiel. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour tous ces partages, en tout cas.
Merci beaucoup pour l'invitation et j'ai adoré tes questions. C'était très cool.
Merci à toi et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.